Commission. Donc merci d'avoir bien voulu accepter de parler ici aujourd'hui.
Je vous prie d'abord d'excuser ma voix rauque et nasillarde. J'ai attrapé un vilain rhume sur l'avion qui vient de m'amener de Québec. Je remercie Philippe Scola pour son invitation qui me fait grand plaisir parce que je suis en contact avec Claude Lévi-Strauss depuis 1962. Nous avons toujours entretenu de très bonnes relations, des relations personnelles très cordiales. Il m'a fait venir à l'école des hautes études en sciences sociales. Il m'a fait aussi, j'étais ici au collège comme professeur étranger pour faire un cours sur la dynamique des mythes, d'où d'ailleurs la deuxième partie du titre de mon exposé cet après-midi. Évidemment, ces célébrations s'inscrivent dans un contexte mondial. Au Canada, nous célébrons de différentes façons, notamment par exemple dans ce dernier numéro de Québec Science, qui est une revue qui a grande diffusion, mais aussi très, très fine et très pointue au Québec, et où l'article de fond, c'est sur, à part évidemment, oui, le cellulaire, le tueur en série, mais ça, ce n'est pas Lévi-Strauss qui serait le tueur en série, c'est le code Lévi-Strauss. Alors, comme on a eu le code Da Vinci, on a le code Lévi-Strauss, et c'est un article de fond qui s'inscrit, encore une fois, dans une perspective qu'on trouve sur le web très développée, que ce soit en rapport avec le New York Times Literary Supplement ou avec ce qu'on fait dans différentes universités mondiales pour célébrer le 100th anniversary or birthday of Claude Lévi-Strauss. Alors ça, si vous cherchez Claude Lévi-Strauss 100th birthday sur le web, vous allez trouver un très grand nombre de références. Bon, alors toujours est-il que le titre que j'ai choisi, et je vais vous dire que je vais passer quelques temps rapidement sur des considérations théoriques et plutôt générales, un peu dans le cadre du paradigme saussurien, mais je vais surtout focaliser sur deux mythes. Le mythe de l'origine de l'igname aux îles Salomon et des mythes inventés par un très vaste échantillon de personnes dans nos sociétés. Donc, j'oubliais de dire que... Alors, le titre, c'est « Code Lévi-Strauss », mais on a en page couverture « L'homme qui a débarrassé l'Occident de ses préjugés », donc qui a donné un sens plus pur au mot de la tribu occidentale. Et comment, effectivement, se débarrassant de préjugés, on réussit à donner un sens plus pur au mot de la tribu à laquelle on appartient. Donc, la dynamique des mythes. Donc, c'était le titre du cours que je donnais au collège comme professeur étranger. C'est Claude qui me l'avait suggéré, d'ailleurs. Alors, on lit dans Le Cru et le Cuit une phrase qui a fait frémir nombre de collègues, surtout les anglo-saxons. Les mythes se pensent dans les hommes et à leur insu. Alors ça, vraiment, ça a provoqué toutes sortes de réactions, de contestations, d'éclats, d'émois. Et je me souviendrai toujours de Edmund Leach, alors qu'on se déambulait sur les pelouses de l'université de Cambridge, qui était permis seulement aux professeurs de marcher sur les pelouses, et qui se grattait la tête et qui dirait « I will never understand those French intellectuals ». Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les mythes se pensent dans les hommes comme si les mythes avaient une existence indépendante et qu'ils pouvaient se penser dans nous, les humains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit à Leach, quand même, Lévi-Strauss n'était pas le premier à tenir des propos semblables. Prenez Heidegger qui disait « Ce ne sont pas les hommes qui parlent, mais la langue ». Et Julia Kristeva reprit ça et Roland Barthes à leur façon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? On est habité, on est parlé par des mythes, par des langues, par des syntaxes. Et pour compliquer encore les problèmes, la fameuse formule canonique pour l'analyse des mythes. Alors, F x de A est à F y de B, dans le même rapport que fx de b est à fa exposant moins 1 de y. Bon, alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors là encore, plein de collègues, pas que des anglo-saxons, s'arrachent les cheveux, ou enfin disent plutôt, non, oubliez ça, hein, ça ne sert à rien. Mais on a fait un bouquin avec Jean Petitot, par exemple, du côté de la morphodynamique, avec des collègues ethnographes comme Eric Schwemmer, qui est un excellent ethnographe sur la Papouasie et sur les Maoris, avec d'autres ethnographes, avec des mathématiciens. Lucien Scubla, dont vous connaissez probablement le livre « Lire Lévi-Strauss », a bien développé ces aspects de la formule canonique également. Je l'avais utilisé pour analyser le tabou de l'inceste, un peu en voyant comment il y a une double torsion qui est en jeu. Jack Morava, un fameux mathématicien de l'université Johns Hopkins, a analysé à fond cette formule mathématique, ou pseudo-mathématique, disent certains, et dit, non, that guy knows really what he's talking about. Hein, il connaît le sujet et c'est plein de sens. Il est arrivé, Jack Morava est arrivé en disant, non, ça n'a pas de sens, cette formule pseudo-mathématique, mais alors il s'est mis à l'analyser à fond et il a trouvé qu'effectivement, oui, ça avait beaucoup de sens. Donc, ça, c'est des façons dont les mythes se penseraient en nous, au moyen, bien sûr, inconsciemment, au moyen de cette formule canonique qui agirait en nous sans que nous en soyons conscients. Et là-dessus, Lévi-Strauss reprend les théories de Boas, parce que nous ne sommes pas conscients de tous les mécanismes grammaticaux, syntaxiques de la langue que nous parlons alors que nous faisons des énoncés. Alors, on ne sait pas, hein, on fait les accords, on les fait bien la plupart du temps, de nos jours, on les fait de plus en plus mal. Par exemple, le féminin disparaît considérablement. On ajoute toutes sortes de particules, on dit « de d'autres » au lieu de dire « d'autres », et on dit la même chose en anglais américain. Et donc, il y a ça va qu'à un cas. Mais on n'est pas conscient, on ne se pose pas de problème au sujet de chaque fois qu'on va dire une phrase, où je mets le complément, où je mets le verbe, est-ce que c'est une proposition indépendante, subordonnée, une conditionnelle ou quoi? Donc on parle une langue sans, en ayant assimilé sa structure, sa grammaire, et c'est inconscient, le fonctionnement de la langue, et il en serait de même avec le mythe. Donc le mythe se penserait comme la langue, si on peut dire, alors à ce moment-là, ça devient une métaphore, se penserait dans l'esprit des hommes, des femmes, de tous, comme la langue s'exécute en nous. Et si on demeure un peu dans le paradigme saussurien, on pourrait dire que comme la langue est antérieure à la parole, le mythe est antérieur à la langue. C'est que le mythe fournirait une grammaire sémantique à la langue qu'on parle, de sorte que certaines associations sont reçues, sont acceptées. C'est une question de résonance, ce que j'ai appelé « the anthropology of resonance » dans un chapitre d'un ouvrage collectif il y a quelque temps, et qui donc est soit une dissonance, soit une consonance. Alors, si c'est une consonance, ça va bien, on a l'impression qu'on se comprend quand on se parle. Et c'est ça qui est important, d'avoir l'impression qu'on se comprend quand on se parle. Parce que la plupart du temps, on se comprend plus ou moins. Les Lao, par exemple, en Mélanésie, où je travaille aux îles Salomon, ils me disent « Bon, tu connais bien notre langue, mais tu la parles mal. » Ben, je dis « Comment ça? Qu'est-ce que je fais pour mal la parler ?»« Tu ne répètes pas assez. Il faut tout dire trois fois. Et il faut que celui, ton interlocuteur, te répète trois fois ce que tu lui as dit. » Alors là, on est sûr de se comprendre. Alors nous, hein, on y va d'une façon beaucoup plus approximative. Ça prend des Mélanésiens sans des primitifs perdus pour nous faire des leçons sur l'usage de la communication verbale. Toujours est-il que... pour terminer là-dessus, que le mythe est antérieur, ou enfin, le mythe est... la matrice ou la structure morphogénétique de la grammaire sémantique qui permet au langage de fonctionner en dissonance ou en consonance. Bon, des dissonances, par exemple, le sacerdoce des femmes et la religion catholique. Ça, c'est une dissonance. Le mariage gay, c'est une dissonance. C'est une consonance, par ailleurs, dans d'autres religions. En gastronomie, si je vous invite, avec des amis japonais, à déguster un gigot de chien, je crois que vous aurez une raison pour « to take a rain check », tandis que les Japonais sont très contents de venir. Donc, il y a des dissonances comme celle-là qui sont d'ordre sémiotique. Et ce que Lévi-Strauss a très bien défini là-dessus, qui est très important, dans Anthropologie structurale 2, de même que dans La pensée sauvage, c'est le caractère précontraint des symboles fondamentaux d'une société. Il y en a à peu près 350 dans les sociétés industrielles, nous dit François Rastier, mais nous, en Océanie, on en a besoin d'au moins 1000. De toute façon, le symbole précontraint est déjà préfiguré et va dicter des associations, des systèmes associatifs qui vont faire qu'on aura des dissonances ou des consonances. On ressentira ces termes-là. On a fait des études très amusantes là-dessus avec le sillement et le soupir. Et c'est très révélateur quand on scie et quand est-ce qu'on soupire dans un contexte qui est un creuset de dissonance ou de consonance. Mais toujours est-il que le concept de symbole précontraint, effectivement, permet de concevoir certains mythes, précontraint l'esprit et à accepter ou à refuser ou à mettre des réserves quant à certaines consonances et dissonances. Alors j'en arrive à la question, je ne répète pas le temps d'aller plus loin, la question de l'origine de l'igname aux îles Salomon à Malaïta. Bon, c'est pas compliqué, au début il n'y avait pas d'igname. Et maintenant il y a de l'igname. Donc comment c'est arrivé? L'igname est un tubercule extrêmement important. On aime beaucoup les ignames. Elles coûtent très cher sur les marchés. C'est un tubercule aussi rituel, cérémoniel, important. Alors, il n'y en avait pas, mais un esprit, l'esprit d'un clan, a dit au chef du clan, là, dans une île beaucoup plus loin, il y a des esprits, c'est des esprits cannibales, qui ont un tubercule que tu devrais aller goûter. Alors, le chef de clan envoie deux de ses fils dans l'île aux esprits cannibales. Ils se font presque bouffer. Enfin, c'est très long, le mythe, c'est très intéressant. Je l'ai publié, d'ailleurs, avec une analyse assez fouillée, dans le journal de la Société des océanistes. Alors, ils arrivent sur place. Ils réussissent à déjouer les esprits cannibales qui ne veulent pas leur donner de l'igname cru, ils veulent leur donner que de l'igname cuite. Mais les gars, ils disent l'igname cuite, ça sert à rien, on ne pourra pas planter ça. Alors ils volent de l'igname, ils la portent pendant la nuit, ils l'embarquent dans leur pirogue, les esprits s'en rendent compte, ils leur envoient un tsunami qui fait chavirer la pirogue, l'igname tombe à la mer et se transforme immédiatement en poisson. Alors les gars, ils ne savent pas, ils rentrent chez eux et ils racontent à leur père: écoute, on a perdu ce que tu nous as envoyé chercher. D'abord, ils ne savaient pas le nom. L'igname n'avait pas de nom encore à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le père, il consulte l'esprit du clan qui lui dit: va dire à tes fils d'aller pêcher à tel endroit, ériger une plateforme de pêche, et jusqu'à ce qu'ils pêchent un très gros poisson qui s'appelle Alia. Alors, les deux hommes s'exécutent et ils vont construire une plateforme, ils pêchent un gros poisson. Ils l'amènent dans le quartier des hommes, chez eux, ils l'écaillent et ils jettent les écailles sur un tas d'ordures végétales. Ils mangent le poisson. 6 mois plus tard, une plante a germé, là où les écailles ont été jetées. Une plante a germé, dont on ne connaît pas le nom, on ne sait pas ce que c'est. Survient une famine, mais alors tout le monde avait beaucoup de réserves, hein, « omne ignotum pro magnifico est ». Alors, on ne sait pas, hein, c'est dangereux, on n'y touche pas, on n'ose pas. Alors, ils disent, survient une famine. Alors, il y a un vieillard qui dit, bon, moi, à mon âge, je peux bien essayer. Si j'en meurs, je mourrai, autrement, je fais le test. Alors, il fait le test, il déguste de l'igname, il trouve ça absolument succulent. et il en fait goûter à tous les autres. Tout le monde en mange et ensuite on va les vendre, on va les planter, on va essayer de les vendre dans tous les marchés de l'île de Malaita, et le reste est le reste. Alors j'ai proposé des interprétations au Lao, qui les ont rejetées. La première, c'est que, est-ce qu'il n'y aurait pas une relation importante entre la cérémonie d'initiation des jeunes femmes nubiles qui, après leur première règle, sont en file indienne sur la place centrale du quartier des hommes et des femmes, du quartier mixte, et qui échangent en chantant un rituel qui échange du poisson d'un côté et de l'igname de l'autre. Et donc, qui agissent comme opératrices de médiation entre la terre et la mer. Ah oui, c'est bien ça, mais bon, il n'y a pas de rapport avec le mythe de l'origine de l'igname. Deuxième question, est-ce que le mythe de l'origine de l'igname, c'est pas ça qui est au fondement, qui résume pas la charte des marchés, un peu à la Malinowski, si vous voulez, la charte des marchés de Malaita? Ben, ouais, peut-être, mais il y a seulement un là-haut, celui qui avait fait un peu d'études au lycée, au l'équivalent d'un lycée, qui a dit, oui, ça, c'est intéressant. Alors, mais en général, ce n'était pas accepté. Alors, troisième interprétation, mais alors, qu'est-ce qu'il faut voir comme origine du mythe? Comment ça aurait commencé? Ben, ils n'ont pas utilisé ces termes-là, mais c'est exactement ça qu'ils voulaient dire. Je prends les termes de Mauss, association par similarité. Comment ça? Ben, tu vois, quand on va planter des ignames, on a gardé des ignames de la saison précédente, et on prend un coquillage fin, très acéré, un coquillage d'ormeau, et on taille le tubercule. Et ça fait des copeaux arrondis. Ben, ça, c'est exactement comme les écailles du poisson Alia. C'est un gros poisson, donc c'est les écailles et les copeaux d'igname qui sont la clé que tu cherches. Alors, si on fait marche arrière, comment se pense le mythe dans l'esprit de ces hommes et de ces femmes? Eh bien, les femmes, justement, comme opératrices de conjonction de la terre et de la mer, vivent le mythe, qu'elles apprennent à implémenter dès leur rituel d'initiation. Elles vivent ce mythe et épousent, ou même avant, mais toujours une fois nubiles, elles contrôlent le produit du travail, de la force de travail de leurs hommes, de leurs pères, de leurs frères, de leurs maris. C'est-à-dire qu'ils leur remettent les poissons qu'eux pêchent, et elles vont sur la place des marchés, où les hommes n'ont pas le droit de pénétrer, c'est dans une cuvette, les hommes restent en périphérie, et avec les transactions qu'elles font, elles achètent ce qui leur plaît, ou enfin, elles échangent pour ce qui leur plaît. Le mari leur a dit, rapporte-nous des dents de dauphin, parce que ça c'est important, on va avoir un fils à marier bientôt, il faut lui acheter une épouse. Mais elle veut du tabac, alors elle rapporte du tabac. Et puis, bon, c'est la femme qui se trouve à gérer complètement, à avoir en main le produit du travail de ces hommes. Alors, OK, ça va. Puis le marché, ben oui, les marchés, ce serait le lieu, précisément, où la synergie terre-mer se réalise le plus concrètement possible. Alors, le mythe de l'igname se pense, si on veut, dans les Malaïtains, mais se pense d'une façon qu'ils remettent en question, c'est-à-dire même si on se rend compte empiriquement que ça marche comme ça, que ça fonctionne sur le terrain comme c'est décrit dans le mythe, eh bien, c'est à leur insu. Parce que, ouais, ils vont finir par dire, oui, ben ouais, après tout, t'as raison. Mais, au début, chaque fois que je leur proposais des interprétations comme celle-là, ils disaient, ben non, que j'inventais des propos qui, pour eux, ne signifiaient pas grand-chose. Mais, alors, vu que ça tourne, je vais quand même prendre quelques minutes en conclusion pour voir comment Alors ça, c'est un site, océanie.org, un site qu'on a conçu avec des océaniens. Et qui nous montre comment on a opérationnalisé les symboles précontraints. Alors, on a pris ancêtre, maison, one talk. Bon, je n'aurai pas le temps d'expliquer les raisons pour tout ça. Et on voit là que, avec. Bon, il y a du son, mais on n'entend pas. Bon. Alors, dans le premier cercle, on a le. On a les associés de degré 1. On a une distance sémantique. Chaque cercle représente une distance sémantique. En basant, c'est associatif et ça revient. Ouais. Bon, c'est associatif et parce qu'on a cru à ce que Lévi-Strauss écrivait dans le totémisme aujourd'hui, que une des conséquences irrémédiable du structuralisme, c'est de revaloriser la psychologie associationniste. Et il s'appuyait sur Radcliffe Brown, les études de terrain que Radcliffe Brown avait faites et qu'il rapporte dans Totémisme aujourd'hui, de sorte que, effectivement, mais là il faudrait développer longuement pour expliquer pourquoi et comment ça fonctionne avec les études qu'on a faites, avec des milliers d'informateurs dans nos sociétés. Alors, toujours est-il que on a donc une distance 1, distance 2, distance 3, on a des demi-degrés intérieurs, ça c'est l'analyse en termes de graphes, des demi-degrés intérieurs et extérieurs, qui font que chacun de ces... alors, ça c'est un attracteur, et ça c'est le bassin d'attraction. Et chacun des éléments du bassin d'attraction est lui-même lourd de sens. C'est un de ces symboles, de ces termes qui font cligner des yeux et qui font souvent soupirer. Et qui sont des termes qui sont associés. Ben là, je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça, mais si vous voulez regarder, c'est océanie.org. Vous avez ça là, ouais. Donc, c'est un site qui est au Musée de la civilisation du Québec et qu'on a fait avec des collègues océaniens et océanistes et qui... a ravi absolument les océaniens qui l'ont vu, nous disent « ça, ça nous prend au trip ce que tu as fait là. » Parce que tu vois, c'est des mots qui nous font secréter et qui nous donnent des borborygmes. Donc, c'est des vrais mots pour nous. Et on a voulu rester complètement à l'écart des grandes catégories de la pensée occidentale. Alors, il n'y a pas question de religion traditionnelle, mais ancêtre. Il n'y a pas question de architecture vernaculaire, mais de maison. Il n'est pas question d'anthropologie urbaine, mais de one talk. Et le reste. Donc, ça, c'est justement la façon dont on opérationnalise des symboles qui sont précontraints. Alors, ben, je termine là-dessus. Et ben, je vous remercie de votre intérêt apparent. En tout cas, pour ça, vous n'avez pas cligné des yeux beaucoup. Ce qui signifie que vous avez suivi.